danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Allez, danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. On y fait venir des grosses têtes, des gugus et puis des athlètes. On aime bien dans nos bistrots les gens qui ne se ressemblent pas trop. Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos ciboulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut. Danse, danse, majeur.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissance, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Nicolas Telly.
L'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Bon, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis vraiment très 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 ravi de venir parler ici. Alors je dois me présenter effectivement, donc je suis maître de conférence à l'Université Paris 1, j'enseigne dans la fac d'art plastique et d'esthétique. En fait, puis j'ai eu une activité de critique d'art en fait, que j'ai eue au début, à la fin des années 90, début année 2000. Et depuis 3-4 ans, j'ai décidé de ne plus écrire dans la presse et de me consacrer à la recherche universitaire. Donc ce soir, je vais parler de la web intimité. C'est bien le sujet de mon intervention. Alors pour le coup, ça va être très académique. Moi, je suis habituellement à la fac, c'est moi qui suis très, très détendu. Enfin, je fais des cours qui ne ressemblent pas forcément à des cours où les textes sont déjà écrits, alors que là, j'ai écrit mon texte. Donc, on va dire que c'est un séminaire. On va faire comme si j'étais en séminaire et que je m'interroge encore sur un sujet. Donc, la web intimité, c'est une notion, je vais y revenir, mais que j'ai utilisée dans le cadre de ce qu'on appelle une thèse en doctorat, donc c'était mon sujet de thèse tout simplement, et j'ai déjà consacré en fait deux essais à la web intimité. Le premier, c'est vu à la webcam, essai sur la web intimité. Donc c'est un essai en fait sur l'utilisation domestique de la webcam, c'est-à-dire sur la webcam à la maison. C'était entre 1998 et 2001. À l'époque, on n'avait pas les ordinateurs avec les petites caméras incrustées au-dessus de l'écran, donc c'était quelque chose d'un peu novateur, c'était un peu compliqué parce qu'en plus il n'y avait pas de haut débit, il n'y avait pas d'ADSL, etc. En tout cas, à présent, les familles semblent communiquer effectivement le plus souvent avec leur ordinateur, avec des logiciels où on peut se voir. Enfin, voilà. Et puis le deuxième essai qui est beaucoup plus récent, qui est, donc le premier date de 2002, mais le dernier qui est tout petit, qui s'appelle Mes favoris, ça date de 2007, c'est un peu la suite, et cette fois-ci c'est une étude des blogs, de MySpace, de Facebook, donc voilà, des sites de partage comme on le dit. Donc en fait, ce sont des ouvrages, pour le coup, je vais les présenter, qui n'ont aucun aspect, surtout universitaire, enfin... Du coup, ça ressemble beaucoup à l'université des bistrots, c'est-à-dire que c'est publié chez des petits éditeurs. L'intérieur n'a rien d'académique. Ça ressemble à des prises de notes, ça ressemble à du journal personnel livré au lecteur, etc. La théorie, elle est là, elle est discrète, mais il ne s'agit pas de faire une leçon de choses sur les webcams, sur la web intimité. Il s'agit plutôt de restituer un univers, de dire ce qui se passe sur le réseau, et aussi, non pas d'étouffer, mais d'évacuer, on va dire, les préjugés d'une certaine manière. Parce qu'on imagine que la web intimité, c'est un univers assez sulfureux, pas nécessairement. Voilà, donc mon engagement en tout cas dans le champ de la recherche, il est là, c'est que je fais des livres qui ne sont pas nécessairement universitaires. Et pourtant, j'entraîne avec moi une discipline qui est l'esthétique. Donc l'esthétique, c'est une science de l'art. On peut s'intéresser donc aux œuvres d'art, comme au jugement, au plaisir, au goût, etc. Mais pour moi, l'esthétique, c'est aussi une discipline, et c'est ça qui est important et qui va donner d'une certaine manière l'orientation de mon texte. C'est une discipline qui permet de penser en fait notre disposition au monde et aussi de déterminer la conduite de nos actions. Voilà, donc à partir du goût, à partir de la réflexion sur l'art, à partir de la réflexion sur les productions des autres ou des siennes. Donc à l'occasion de cette invitation, je ne vais pas rejouer ce que j'ai dit dans mes ouvrages, je ne vais pas vous faire une synthèse, je ne trouve pas ça du tout intéressant. Je voudrais plutôt m'intéresser et profiter de l'occasion pour défendre en fait l'idée d'une émancipation culturelle qui est associée au réseau Internet et qui n'est plus, ou plutôt qui est en voie de disparition et qui est aussi un enjeu politique au sens de la conduite de la cité. Je m'explique, le titre en fait de mon intervention, ça s'appelle « Les revers de la web intimité ». Donc vous allez voir que ça n'est pas une histoire nécessairement positive, mais qu'il y a des petits drames qui se passent sur le réseau. Voilà. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien, je vais commencer par cette image. Donc on voit trois jeunes filles en tenue très légère, sourire aux lèvres, bras levés. Et en fait, cette image est extraite d'une série de photographies qui est intitulée « Ma sœur, mes cousines et leurs amis ». C'est une œuvre d'un jeune artiste contemporain qui s'appelle Claude Coulpier, qui vit entre Clamecy et Grenoble, donc qui est très, très proche d'ici. Ce sont des photographies donc amateurs de jeunes filles s'exhibant devant leurs amis. Ce sont des délires entre filles qui jusqu'ici se trouvaient en fait dans leur petit carnet personnel, dans leur boîte secrète. Et puis, en fait, avec le réseau, ça change tout. Et ce sont là des clichés que Claude Coulpier a retrouvés sur le réseau Internet, et plus précisément sur un site qui s'appelle petiteteenager.com. Donc Claude Coulpier, en fait, cet artiste, pense que ces images proviennent de blogs personnels de jeunes filles et que ces images ont été détournées, comme on dit, hackées par des sites pornographiques. C'est invérifiable, mais c'est vraiment plausible. Donc en intitulant cette série « Ma sœur, mes cousines et leurs amis », Claude Coulpier tente d'exprimer la manière dont le réseau concourt à une sorte de perte de signal. Je le cite. « Avec Internet, quand on consulte des photographies, ça commence par celle de la famille, après celle des amis, après celle des amis de mes amis, et d'autres encore, jusqu'à des personnes que l'on ne connaît pas. Les images circulent, voyagent, elles sont récupérées, mais on ne sait plus d'où elles viennent et qui est qui. » Fin de citation. Donc ceci explique sans doute la raison pour laquelle Claude Coulpier, donc notre artiste, redistribue ces images dans l'espace d'exposition. Il fait d'abord tirer ses photographies dans un magasin, chez Photostation ou bien à la FNAC, en format 10-15, donc ce sont des images qu'il a trouvées sur le réseau et qu'il imprime, qu'il fait imprimer, et il accroche ses photographies au mur en utilisant des stickers, donc on le voit ici avec des petits stickers Mickey, à paillettes, des stickers décoratifs. Donc ces images semblent retrouver ici symboliquement leur écosystème naturel, l'espace mural, sous-entendu le mur de la chambre. Alors, que dire ? Eh bien, le web, c'est un espace public. Quand on dépose ses données personnelles, photographies, textes, vidéos, sur le réseau, on les dépose dans un espace public. Cet espace, aussi récent soit-il, une quinzaine d'années, est déjà extrêmement délimité, territorialisé, avec ces zones commerciales que vous devez connaître peut-être, les fameux sites marchands, le plus connu c'est Amazon, ces zones de culture, donc les sites d'information, le journal du centre par exemple, le Monde, Libération, ces zones de savoir et ces zones de partage de données, ce sont les sites comme YouTube, comme Dailymotion, donc qui sont des sites de partage de vidéos. L'ordinateur personnel comme le téléphone portable, s'ils sont des outils d'expression et de communication, sont aussi des moyens de locomotion pour se déplacer sur le réseau, et plus précisément sur le web. Donc ces appareils, là encore, sont des biens d'équipement. Ils constituent donc la nouvelle panoplie du quotidien des ménages. En effet, et je pense que vous avez fait cette expérience-là et qu'elle est beaucoup plus riche que la mienne, on est passé de la chaîne IFI, du magnétoscope et de l'appareil photographique et du téléphone en fait, au lecteur MP3, au DVD, au caméscope, à l'appareil photo numérique, au téléphone portable qui prend des photos, enregistre des séquences vidéo, devient un agenda, etc. etc. Dans cette panoplie formidable, dans ce système des objets, l'ordinateur est devenu l'objet premier. C'est-à-dire qu'il est truffé de logiciels de montage, de logiciels de visionnage, et il est forcément connecté à un graveur de DVD et au réseau Internet. Les grandes firmes qui nous permettent d'avoir accès à ce matériel, qui nous mettent à disposition ce matériel, se nomment Apple, Sony, IBM, Microsoft. Donc ces innovations technologiques, elles touchent incontestablement une majorité de personnes depuis une quinzaine d'années, depuis 1995, depuis l'ouverture de ce qu'on appelle le web, non pas Internet, mais le web. Elles sont célébrées à chaque instant avec la production tout azimut d'images et la circulation de données personnelles, donc des photos, des vidéos, qui nourrissent les blogs, les sites personnels et les sites de vidéos. Donc le web est ici envisagé comme un lieu de stockage et de partage de données. Mais ces appareils qui sont des biens d'équipement, ces appareils de communication, ces appareils donc sont d'abord des appareils d'enregistrement. Quand on prend une photographie, quand on utilise un logiciel de traitement de texte, quand on dépose des données sur un site, on procède à un enregistrement. Et c'est là la fonction principale de ces appareils, c'est-à-dire fixer, conserver des sons, des images et des données. Alors, la technologie joue un rôle déterminant ici, pulsionnel, on pourrait dire, puisqu'il l'incite à une activité otoscopique permanente. Otoscopique, c'est le fait de se regarder en permanence, de s'observer par le biais de ses caméras vidéo. Et les images sont accessibles, il n'y a pas de son, il n'y a que des images. Les images sont accessibles à toute personne équipée d'un ordinateur connecté au réseau Internet. Donc, ces appareils, ces ordinateurs, ces téléphones portables, auxquels on peut ajouter les appareils photo numériques, accompagnent notre quotidien et l'on peut se poser la question suivante, qui est une question capitale et que je vais répéter, qui va être le leitmotiv de mon intervention. C'est si ces appareils modifient la perception de notre environnement, puisque ce sont des instruments de perception, comment ces appareils modifient-ils la conduite de nos actions? Comment influencent-ils, travaillent-ils ce qui gouverne nos actions et nos décisions? Et c'est là pour moi une question fondamentale, c'est celle que soulève la web intimité. Et c'est une question qui se pose depuis en fait l'invention de la photographie et des appareils d'enregistrement sonore. Comment, quelle incidence ces appareils-là ont sur la façon dont on se tient, on se comporte et la façon dont on agit. Dans une étude qui a été commandée par la firme Kodak au milieu des années 60, le sociologue Pierre Bourdieu a employé l'expression « un art moyen » pour qualifier la démocratisation de la pratique photographique, c'est-à-dire que la photo est une pratique circonstanciée liée aux événements de la vie familiale, naissance, mariage, vacances. C'était en 65 qu'on avait, et Kodak lance cette grande enquête, on n'est pas encore au numérique, etc. Je resitue un peu. Aujourd'hui, on sort toujours, et c'est ça qui a changé, on sort toujours son téléphone portable, devenu appareil photo de poche, pour immortaliser un moment, une situation, pour fixer un moment esthétique, pour se souvenir, tout simplement. Et c'est, semble-t-il, devenu un geste normal, automatique, de même le fait de poster presque immédiatement les images prises sur son blog ou de les déposer sur YouTube. Et il paraît au contraire très suspect, voire pas normal du tout, de ne pas vouloir faire des photos pour immortaliser un moment où, voilà, tu prends pas de photos, pourquoi? Non, je sais pas. Donc d'un point de vue esthétique et aussi philosophique, on peut dire que le web prolonge ce qui se joue depuis l'invention de la photographie. Il semble y avoir, ou il semble plus y avoir d'expérience, de vécu sans archives. C'est ça qui est important. Il n'y a plus d'expérience, de vécu sans archives, sans enregistrement. En d'autres termes, le web et les appareils d'enregistrement numérique bouleverse la condition du vécu et sa conception même. Et lors de là, toute une série de questions se formulent, dont celle-ci qui me semble la plus insistante, c'est la suivante. Dans ce contexte généralisé d'enregistrement, qui écrit? C'est-à-dire, qui est le scribe? C'est-à-dire, qui est chargé de la rédaction? L'enregistrement, c'est un ensemble de techniques qui permettent de fixer, de conserver et éventuellement de reproduire des sons et des images et des données. Qui écrit? Eh bien aujourd'hui, ce sont les appareils photo, les caméras vidéo, les logiciels de mise en page, les éditeurs de blog. Et tout cela, en fait, se passe en premier lieu dans l'espace public du web qui devient un registre incommensurable. Et les artistes comme Claude Coulpier, dont j'ai cité, montré le travail tout à l'heure, appellent le web la grande soupe ou le grand bouillon. Donc pour revenir à cette mutation, à ces changements et à cette question qui écrit, ça veut dire que depuis 1995, l'informatisation de ces pratiques d'enregistrement apparaît comme un fait culturel majeur. Il se manifeste en effet par un élargissement de la sphère domestique et privée qui s'émancipe par la publication des premières pages personnelles et l'utilisation domestique de la webcam. Et aussi, avec ce qu'on a appelé le web 2.0 depuis le milieu des années 2000, par le blog, par les vidéos déposées sur YouTube, mais aussi, il faudra le dire, par le fait que beaucoup de sites pornographiques pullulent et deviennent extrêmement accessibles et facilement accessibles. Donc à première vue, on constate une poussée d'images liées au domestique. Le lien avec l'intime est rapidement fait, c'est-à-dire avec ce qui relève du privé, du personnel, et surtout qui, par définition, doit demeurer quelque chose de secret, électif. Dans les textes d'humeur, les textes critiques et les commentaires liés au web, qu'on pouvait lire au début des années, au début des années 2000, des textes de Paul Virilio et d'autres philosophes, on parle d'intimité surexposée, d'exhibitionnisme et de voyeurisme. Alors, ce n'est pas un hasard si dans le champ de l'art contemporain, on s'interroge aussi sur le phénomène. Alors, l'édition 1998 du printemps de Cahors, qui était une manifestation d'art contemporain, avait pour titre « La sphère de l'intime ». C'est une très belle expression qui désigne finalement notre sujet d'étude ce soir. Le commissaire de l'exposition, qui s'appelle Jérôme Sens, explique dans le catalogue ce que veut dire la sphère de l'intime. Je le cite, « L'intime est une manière de souligner l'acte de vision, comme celui que l'on a à travers l'œilleton de la caméra photographique ou vidéo. Un cadrage serré qui n'est pas une étroitesse de la vision, mais au contraire son aigu. Un plan serré qui renvoie à sa périphérie, qui n'exclut pas le reste. Si l'art a toujours été intéressé par l'idée de traquer l'intime, il n'est pas question pour autant d'exhibitionnisme, de voyeurisme et d'obscénité. Ce n'est pas son propos. » Fin de citation. Alors l'artiste qui illustre ce questionnement s'appelle Joël Bartolomeo. Il est l'auteur d'une série de vidéos qui ont été réalisées au début des années 90, donc il n'y avait pas encore le réseau Internet. Joël Bartolomeo utilisait un caméscope HI8, peut-être que ça vous dit quelque chose, et c'était a priori le must de la vidéo. Donc il a filmé comme cela sa famille il en a fait d'une certaine manière la matière de son travail artistique. Donc ces films ressemblent à des films de famille qui interrogent l'intrusion des appareils d'enregistrement dans la vie ordinaire. Je disais précédemment, il ne semble plus y avoir d'expérience de vécu sans archives, sans enregistrement, et que le web et les appareils d'enregistrement numérique bouleversent la condition du vécu et sa conception même. Il y a là tout un travail, en fait, sur ce qu'on a appelé l'anthropologie du quotidien. Qu'est-ce que c'est la vie de famille? Comment ça se passe à l'intérieur de l'espace domestique et dans la famille? Et tout le travail de Joël Bartolomeo, c'était de capter comme ça, de poser la caméra et de la laisser enregistrer, et après, au moment du dérochage, au moment du montage, il disait « je défilme », c'est-à-dire qu'il repérait les moments où c'était intéressant et il faisait des petits montages qu'on voit à peine, des petites coupures. Voilà, donc un genre d'exemple, mais le web n'existait pas, les caméras numériques ou les appareils photo numériques, etc., ça n'existait pas. Il faisait ça avec un caméscope HI8 et donc un appareil photo jetable. Il se prenait ce geste-là, maintenant tout le monde le fait, c'est-à-dire on se prend, on tend l'appareil, on tourne l'objectif vers soi et après on vérifie pour voir si la photo est bien. Là, c'était impossible, enfin il y avait autre chose, c'était une autre économie de l'image. En tout cas, ça s'appelle la sphère de l'intime, ça rentre dans ce propos-là. Moi, pour ma part, au début des années 2000, donc dans le cadre de mon étude sur les webcams, j'ai parlé en fait de forme extime, donc qu'on peut opposer à intime, extime, pour montrer l'extérieur. Et en fait, je faisais référence à Joël Bartolomeo. Je faisais référence aussi à une artiste, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Sophie Kahl. Je pensais aussi, en parlant de forme extime, c'est-à-dire qui appartient à l'intime, mais qui en même temps est montré et ouvert sur l'extérieur, je pensais aussi au travail d'une photographe américaine qui s'appelle Nan Goldin, et à cette œuvre majeure aussi de l'art de ces 30 dernières années, on va dire, de ces 20 dernières années, donc The Ballad of Sexual Dependency. Donc on remarque ici que d'un point de vue critique, esthétique, tout le travail de ces artistes, que ce soit Joël Bartolomeo, Nan Goldin ou bien Sophie Kahl, c'est, comme on dit, de mettre en forme les données récoltées et qui sont inscrites dans le vécu. On les réagence comme nous, on faisait autrefois, je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui, on faisait notre album de vacances, de famille, etc. En 2007, le psychanalyste assez médiatique d'ailleurs, qui s'appelle Serge Tisseron, proposera la notion d'extimité pour qualifier, je le cite, « ce mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique. Cette tendance est longtemps passée inaperçue, bien qu'elle soit essentielle à l'être humain. Elle consiste à communiquer à propos de son monde intérieur. » Fin de citation. Mais revenons au web, à cet espace dont on ne présume pas de son aspect public, le web, en fait, qui génère, qui secrète une relation à l'autre pour le moins inattendue et que moi j'ai nommé donc la web intimité. La web intimité, c'est être à la fois proche et étranger, c'est l'illusion de la proximité et l'extrême souplesse, voire l'abandon des règles de bienséance habituellement de coutume ou à l'œuvre dans l'espace public. La web intimité, en fait, ça se présente comme une pièce de monnaie, elle a un côté pile, elle a un côté face. D'un côté, on s'adresse à des internautes sans les connaître précisément, sans savoir qui se cache derrière l'écran sur le réseau. On lui met à disposition des informations nous concernant, des photos, des vidéos, des billets d'humeur, un journal personnel, etc. De l'autre, celui ou celle qui regarde, qui consulte, devient dépositaire de ces expériences-là, de ces moments de vie. Et la web intimité, c'est cette relation propre au réseau, le fait de s'adresser à des inconnus comme s'ils faisaient partie de nos proches. En fait, on s'adresse à des semblables. Donc c'est flagrant à la fin des années 90 avec l'usage domestique de la webcam, avec les pages personnelles. On n'avait pas MySpace, Facebook, etc. On avait des pages personnelles à l'époque. Et c'était aussi flagrant avec ce qu'on appelait les chats. Les chats, ce sont des espaces de discussion, des forums de discussion. Aujourd'hui, c'est rentré dans l'univers quotidien, l'espace quotidien de nos pratiques informatiques. Je ne sais pas si vous utilisez cette fonction de Google qui s'appelle e-Google et vous avez la possibilité de vous connecter, soit de dialoguer avec quelqu'un qui est en ligne ou soit même d'échanger en vidéo. Enfin, c'est quasiment automatique. Donc la web intimité, c'est une rencontre improbable et pourtant réelle grâce au réseau Internet entre deux groupes de personnes qui n'ont a priori aucune affinité. La web intimité, elle repose le plus souvent sur des malentendus esthétiques et aussi une capacité à accorder du crédit aux autres. Les attentes de chacun ne sont pas les mêmes, de même que le champ de référence, et en ce qui me concerne le plaisir esthétique en jeu, n'est pas le même. Et pourtant, il y a un partage d'expérience, un partage du monde. Alors, cette web intimité naissante, elle travaille énormément les artistes et les écrivains. On peut citer, par exemple, ce roman d'un artiste contemporain qui est plutôt orienté vers des formes visuelles, vers des sculptures. C'est un artiste français qui s'appelle Serge Comte et qui a publié donc en 1997 un roman de 80 pages qui a pour titre « Vis-à-vis ». Alors il y a un jeu de mots sur le vis-à-vis et les vies qui coexistent d'une certaine manière. Et en fait, ce roman consiste tout simplement à apprendre les échanges qui sont sur les chats, sur les forums d'échange, et à construire un dialogue, un récit avec. Et puis, il y a cette œuvre aussi majeure d'un écrivain américain qui s'appelle Bruce Bunderson, « Sexe et solitude », qui est publié en 1999, et le livre s'ouvre de cette manière. C'est assez éloquent. Je cite « Dans ces pages, il est question de promiscuité et d'isolement, de la rue désertée pour les autoroutes de la communication d'Internet, de la fin de toute relation physique entre les générations, etc. Fin de citation. Vous allez dire, je parle d'un monde ancien, puisque aujourd'hui, on ne parle pas de web intimité. Effectivement, à partir de la moitié des années 2000, avec ce qu'on a appelé le web 2.0, avec les sites Facebook, MySpace, YouTube, etc., on ne parle pas de web intimité, mais de réseau social. Les blogs vont succéder aux pages personnelles, et surtout, les sites MySpace, Facebook vont devenir les symboles et les piliers de ces réseaux sociaux. Donc la web intimité connaît ici ses premiers revers. Le premier, c'est le parasitage des données personnelles par les activités qui sont liées au travail. Un travail que l'on a ou un travail que l'on espère, que l'on désire. Pour illustrer cette situation, on peut citer l'exemple d'une blogueuse dont le pseudo est Marla Singer. Marla Singer, ici, en fait, c'est une jeune femme qui est pigiste pour un site internet et son travail consiste à chroniquer ou à faire des critiques de films à l'intention des internautes que nous sommes, donc des petites critiques de films pour des guides, pour aller au cinéma, pour aller voir des longs métrages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pendant à ce site public et professionnel, c'est le blog de cette jeune femme qui s'appelle « Ne pas devenir une Bridget Jones » parce que ma vie sentimentale est pathétique et que ça peut toujours être pire. Heureusement, il y a le cinéma. C'est le sous-titre du blog. Hein. Et dans ce blog, Marla Singer, donc toujours la même, mêle à ses écrits personnels ses critiques de films déjà publiés. Donc elle alterne la critique de cinéma et le récit sur soi. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a évidemment un envahissement certain de la valeur travail, comme on dit si bien aujourd'hui, et on assiste à une mue radicale de l'internaute. Pas de l'internet, mais de l'internaute. L'internaute devient un agent économique comme s'il était sur le marché du travail en permanence. Si en 1998, Cory, avec son site internet, veut montrer ses compétences en matière de web design, c'est-à-dire de fabrication de sites, eh bien, dans le monde du réseau social, de MySpace ou bien de Facebook, on essaie de montrer qu'on est indispensable, courtisé. On ne s'adresse plus nécessairement à des semblables, on cherche des affinités, des opportunités. Et ce qui est frappant, c'est que Facebook impose son rythme et impose d'être continuellement connecté. On informe les autres, on s'informe aussi. Ce n'est plus du récit, mais de l'information. L'engagement de la personne dans sa représentation, ici, a perdu de l'évidence. Et ce qui est atteint, c'est la relation d'altérité qui ne repose plus sur l'idée du semblable, mais du différent, et plus précisément du concurrent. On se distingue. Or, la web intimité, eh bien, c'est tout le contraire. La web intimité, c'est être dépositaire d'expériences, c'est-à-dire être en situation, pas simplement de recueillir des expériences, de les consigner, mais aussi être le témoin, sinon le principal, d'actions et d'expériences en train de s'accomplir. Alors, ce n'est pas forcément faire partie du même réseau social, encore moins être de la même communauté esthétique, mais c'est accorder du crédit à la parole des autres, sans être semblable, c'est accepter et surtout apprécier leurs différences. Je l'ai dit, ma discipline est l'esthétique, mais les sciences sociales et les sciences de l'information ont contaminé le discours de la pensée du réseau Internet. En effet, on pense le réseau en termes social, individu, narcissisme, exhibitionnisme, voyeurisme, surveillance, intimité, etc. Mais le réseau, à mon avis, pose à sa manière la question du vivre ensemble, du vivre en commun, de notre manière d'être et aussi de ce qui détermine la conduite de nos actions. Et cela passe par des productions de formes et de programmes plastiques et esthétiques. La web intimité, contrairement au réseau social, elle pose la question du peuple. Entendre par le peuple par opposition aux élites, aux franges en vue de la population. Pourquoi ? Parce que le réseau interroge les catégories du proche et du semblable. Et je vais m'expliquer. Sur le réseau, le peuple s'est trouvé complètement désœuvré, sans œuvre commune à réaliser. Il a fallu aussi apprendre un nouveau langage, peut-être pas celui des machines, comment elles fonctionnent, mais celui des logiciels, comment mettre en ligne des informations, comment mettre un lien vidéo, comment mettre une photo ici et pas là, etc. Ce qui est frappant sur le réseau, c'est la richesse et l'extravagance, certains diront l'aspect kitsch, des formes créées par ce que l'on appelle aujourd'hui les amateurs, mais que moi je préfère appeler pardon, le peuple. Donc ce sont des gifs animés. Ces formes-là, ces gifs animés, ces tournures de langage, eh bien c'est le langage vernaculaire du web. Il y a une artiste russe qui s'appelle Olia Lialina qui collectionne ces formes et elle les appelle le folklore numérique. Donc le folklore, c'est la science du peuple. La web intimité mute encore. Première mutation. Une deuxième mutation, elle passe sous le régime d'une esthétique dite différée. Comme à la télévision quand on passe un match en différé. Techniquement, le réseau supporte les enregistrements vidéo. En 99 et 2001, ce n'était pas le cas. Depuis 2005-2006, c'est le cas. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, cela contribue à la survisibilité d'images pornographiques. Déjà, à la fin des années 90, quand j'étudiais les webcams, beaucoup de sites qui référenciaient les webcams amateurs domestiques étaient parasités, hackés par des sites pornographiques. Là, ce qui se joue, c'est quelque chose de très différent, puisqu'on peut enregistrer et diffuser. La vie sexuelle est maintenant travaillée au présent par les appareils d'enregistrement et elle a un avenir iconique. Photos de mes ex sur des sites spécialisés. Ex-petit ami, ex-petit, etc. Et séquences vidéo enregistrées, déposées sur un site et qui invitent les internautes à déposer, pour rigoler aussi, leurs vidéos montrant leurs ébats. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, ce site était un site un peu comme YouTube, c'était pour montrer des vidéos de famille, et puis ça a été entièrement parasité par toute une production amateur pornographique, et c'est devenu un site exclusivement orienté vers ce genre de vidéos. Donc beaucoup de couples, à présent, filment leurs ébats amoureux, caméra au point ou bien plan fixe, et c'est moins la nudité qui intéresse que l'acte sexuel qui devient un projet de tournage, un acte de création, point d'interrogation. Je ne sais pas quoi penser de tout ça, et je le répète, ce que je disais précisément, et qui est le leitmotiv de mon intervention, il ne semble plus y avoir d'expérience, de vécu sans archives, sans enregistrement, et cela touche même notre propre sexualité. La web intimité, revenons à des choses un peu plus sages, aujourd'hui, par le prisme des réseaux sociaux, c'est aussi une pléthore d'images et de créations sans qualité.
Pas de problème, viens au bistrot. Tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot. Tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Quand je dis que la web intimité, c'est peut-être l'histoire d'un malentendu, c'est que ces vidéos-là, qui sont réalisées dans un espace domestique, avec de jeunes gens ou des couples, etc., ce sont des actions qui sont comme ça pensées, conçues pour être diffusées. C'est diffusé depuis le milieu des années 2000 par le biais de Dailymotion ou de YouTube. Ça a attiré mon regard, mon attention, parce que je me suis dit, mais quand même, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle ce qu'un artiste qui s'appelle Serge Comte, j'en ai parlé tout à l'heure, faisait au milieu des années 90 avec beaucoup d'autres artistes à l'époque où le web n'était pas encore là. et qu'on peut retrouver sur le réseau. C'est-à-dire qu'on a affaire à un lip-sync, mais lui ne l'appelait pas de cette manière-là. C'est une œuvre qui appartient à la collection des nouveaux médias du Centre Pompidou. C'est une œuvre qu'il a déposée sur le site YouTube et qui, contrairement, bizarrement, aux vidéos que je vous ai montrées précédemment, avait très peu d'audience. Elle a dû être regardée 200 fois maximum. Et puis, coup de théâtre, en mai dernier, elle a été censurée par YouTube. Parce que Serge Comte n'avait pas payé les droits d'utilisation de la bande-son. Alors il y a quelque chose d'assez inexplicable qui s'est passé, c'est que les gens de YouTube ont réussi à voir qu'il s'agissait ici d'une œuvre d'art, alors que les autres pratiques ne relèvent pas de l'art. C'est étrange, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. En tout cas, donc, Serge Comte a pris la décision de déserter YouTube et de partir sur d'autres réseaux. Donc il y a de toute évidence, un malentendu esthétique. Et ce qui se pose aussi, c'est comment ces productions amateurs réinterrogent les pratiques artistiques et interrogent aussi l'art contemporain. Donc voilà, donc la web intimité, ce sont aussi ces formes plastiques-là pour moi, reprises de chansons sans s'acquitter des droits de citation ou d'utilisation. Donc ce sont des créations aussi dites sans qualité. Ce sont des créations sauvages, qui font régiment sur le réseau et qui signifient que la culture a changé de régime. On n'est plus dans la lecture et la réception d'œuvres ou de produits de consommation culturelle produits ailleurs ou par une entité. La culture du début du XXIe siècle, en fait, donc la note, celle qui est en marche là, est une culture qui concilie à la fois la lecture et l'écriture. Pourquoi ? Je vais vous le dire tout à l'heure, mais c'est le constat d'un juriste américain qui s'appelle Lawrence Lessig et qui parle en fait de read and rewrite culture. C'est quelqu'un qu'on n'a absolument pas entendu dans le grand débat sur la loi Hadopi, etc. Mais c'est quelqu'un qui a essayé de penser la gestion de droit à l'ère d'Internet et du numérique avec une souplesse qui n'a rien à voir avec celle à l'œuvre aujourd'hui en France. Enfin bref. Donc nous sommes aujourd'hui à un moment historique difficile en France, on le sait, notamment parce que les politiques ont aussi investi les réseaux sociaux. Ils utilisent Facebook, Twitter, et ces réseaux permettent aux politiques de s'adresser au peuple en faisant croire qu'ils font partie du peuple. Et c'est le cas notamment de Nicolas Sarkozy qui a une page Facebook. C'est très amusant de lire son profil. Donc, il répond aux questions très naïvement. Donc, sa femme, il est marié, son bureau, il se trouve, ce qu'il est en train de lire, ses livres préférés, etc. Et tout ça évolue, change. Même un adolescent ne le ferait pas, enfin, ou ferait pour de faux, quoi, pour rire. Mais lui, c'est très sérieux, a priori, ça donne des indications. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez surprenant qui est en train de se jouer. Et c'est par ce canal que Nicolas Sarkozy a livré une information donc erronée sur l'histoire et sur sa présence à Berlin en novembre 1989. Et ce choix de communication montre bien qu'il s'adresse à nous comme s'il faisait partie de nos proches, de nos amis. Donc il s'adresse à nous, il glisse cette information comme si on était ses semblables. Or c'est un fait, Sarkozy ne fait pas partie du peuple, et de ce peuple qui vit dans l'espace public du réseau, de ce peuple dont la culture s'émancipe aussi sur le réseau. Pour preuve, la loi Hadopi, qui vient verrouiller la culture inédite, une culture aussi naissante, cette culture de la lecture et de la réécriture, que l'on pratique tous, certainement lui aussi, et qui consiste à interpréter, à reproduire, à réutiliser des œuvres déjà réalisées par d'autres ou des produits culturels déjà disponibles. Alors la question qui se pose à présent, c'est quelle présence au monde le réseau, la web intimité ou les réseaux sociaux permettent-ils, assurent-ils ? C'est une autre manière de formuler la question, si les appareils d'enregistrement modifient notre environnement, comment modifient-ils également notre conduite et nos actions ? Alors il y a une revue qui s'appelle Le Tigre, qui est une revue papier, mais qui a aussi un site internet. Et dans le volume 30 de la revue Le Tigre, édité en novembre 2008, il y a un article qui a pour titre « Marc L. genèse d'un buzz médiatique. Et le rédacteur en chef de cette revue, qui s'appelle Raphaël Metz, dresse le portrait d'un inconnu, Marc L., en étant extrêmement précis sur ses moments de vie, en ayant simplement cumulé des informations librement disponibles sur le web. Donc cette publication a fait un grand bruit, et en fait, sa version en ligne a été entièrement anonymisée à la demande de l'intéressé. Je vais dire 30 secondes ce que dit Raphaël Smets sur le site. Il dit voilà, octobre 2008, nous cherchons à contacter un universitaire britannique pour publier ses photos sur des murs peints à Téhéran. En quelques minutes de recherche, avant même de trouver son mail, nous connaissons l'âge et le prénom de son fils et ce qu'il avait fait lors de ses dernières vacances. De là, naît l'idée de faire un portrait Google, portrait écrit à partir de traces laissées par quelqu'un, volontairement ou non. Le sort tombe sur Marc L., qui ne s'appelle pas Marc, ni Fred, ni Jules. Sa vie privée n'a aucun intérêt en soi, si ce n'est d'être facilement racontable. Question tout à l'heure, qui écrit, qui est le scribe? Donc en novembre 2008, le portrait Google paraît sur deux pages dans la version papier du Tigre, et ça devient presque un phénomène médiatique, enfin, la presse s'empare de cette chose-là. Alors, prévu initialement comme étant le portrait Google d'une série finalement avortée, le portrait de Marc L. soulève plusieurs questions. C'est d'abord la capacité de mémoire infinie du réseau qui a permis de reconstituer l'histoire de Marc L. Les données, qu'on pourrait dire qu'elles soient gravées dans la pierre ou bien sur un alliage d'allium en train de circuler dans l'espace, ou qu'elles soient immatérielles, stockées sur des serveurs, résistent au temps qui passe. Les données semblent pérennes. Et à chaque instant, de nouvelles données sont conservées et augmentent infiniment le nombre d'informations disponibles. Alors, question, est-il encore possible d'être oublié et de pouvoir disparaître? La tendance générale, via les réseaux sociaux, semble être de pouvoir implémenter du contenu tout en le maîtrisant. Facebook a ainsi modifié ses paramètres de confidentialité. Cependant, et ceux qui cherchent trop à vouloir disparaître, comme un certain Julien Coupa et son groupe d'amis qui ont quitté Paris pour Tarnac en Corrèze et qui revendiquent des zones d'opacité, ces gens-là sont immédiatement considérés comme suspects. Et Tarnac devient une zone d'opacité avec d'étranges performances. Bref, donc pourquoi faudrait-il se cacher si l'on n'a rien à se reprocher? Ce qui dérange également, c'est l'impossibilité d'établir une traçabilité. On remarque que la volonté inébranlable et revendiquée d'anonymat de Julien Coupa, qui est peut-être l'un des auteurs, on ne sait pas, de ce fameux livre du Comité Invisible, a fait couler beaucoup plus d'encre que le contenu même du livre. Pourtant, si l'on revient au livre lui-même, il est intéressant de souligner le projet du livre. Je lis simplement les quelques premières lignes. Ce livre, L'insurrection qui vient, est signé d'un nom de collectif imaginaire. Ses rédacteurs n'en sont pas les auteurs. Ils se sont contentés de mettre un peu d'ordre dans les lieux communs de l'époque, dans ce qui se murmure aux tables des bars, derrière la porte close des chambres à coucher. Ils n'ont fait que fixer les vérités nécessaires, celles dont le refoulement universel remplit les hôpitaux psychiatriques et les regards de peine. Ils se sont fait les scribes de la situation. Fin de citation. Le collectif imaginaire a donc consigné par écrit des informations. Il les a enregistrées, mais ici, ce ne sont pas des appareils qui ont enregistré automatiquement et qui ont mis en forme les données de l'époque, ce sont des hommes. Et l'État a criminalisé l'attitude exemplaire de ces personnes. D'autres personnes ont aussi des attitudes exemplaires, difficiles à circonscrire, difficiles à maîtriser, difficiles à catégoriser ou à faire rentrer dans une classe sociale. Et ces personnes-là, ce sont les artistes. Et il est curieux de voir comment, depuis la fin des années 90, des artistes vont réinvestir la sphère domestique et familiale et vont utiliser le web comme un simple appareil d'enregistrement au même titre qu'une caméra vidéo ou qu'un appareil photo. Ces artistes, en fait, ont le courage de reposer des questions d'ordre esthétique, pragmatique, moral et philosophique qui concernent la place que doit tenir l'artiste dans la société. Comment pense-t-il sa place et sa participation au monde de l'art ? Comment pense-t-il l'articulation entre son activité et la question de son accomplissement personnel, ce qu'on appelle en philosophie le bonheur ? Comment ne pas être un simple travailleur ? Comment ne pas être un simple producteur de contenu culturel, richement ou piètrement payé ? Depuis le début des années 2000, donc un groupe d'artistes s'est petit à petit constitué autour de cette préoccupation, sans programme prédéterminé, sans manifeste, et il s'applique à créer les conditions favorables de la création, mais aussi de leur inscription sociale. Implicitement, ces artistes formulent une question, qui est la suivante. Où et comment leur art doit-il élire domicile ? Alors ces artistes existent bel et bien, ils s'appellent Serge Comte, Claude Coulpier, Camille Lorelli, Fanette Muxard, David Lefebvre, Fabrice Crou, Stéphane Sauzet, Raphaël Charpentier, etc. La liste est une liste sans fin, j'aurais pu continuer. Ils exposent en fait dans des centres d'art, dans des galeries, ils exposent aussi sur le réseau, dans des lieux publics. Et ces artistes, en fait, qui exposent donc sur le net, dans les centres d'art, qui jouent sur scène, qui investissent les espaces publics, produisent ce qu'ils appellent des formes faibles, des formes fuyantes et des formes volatiles. Ces artistes ont mis en place un dispositif de création très singulier. C'est la raison pour laquelle je parle d'attitude exemplaire. Ce dispositif singulier de création, ils le nomment des résidences fictives, tout simplement parce que ça n'a aucune existence associative, institutionnelle, légale. Une résidence fictive, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison de famille, un appartement habité par des amis, où ils vivent et travaillent, comme ils le disent. Et dans ces espaces domestiques, où ils vivent et travaillent, ils peuvent travailler seuls, ils peuvent travailler avec des amis, en groupe, aider, etc. Ils peuvent travailler aussi en famille. Ces travaux qui sont montrés à l'occasion d'expositions sont aussi montrés sur le réseau et où ? Eh bien, sur MySpace, vous savez, dans les galeries où on voit des vidéos, etc. Donc, ils montrent leur production à l'occasion d'expositions ou en photo sur leur blog. On dénombre aujourd'hui, en fait, près d'une dizaine de résidences dites fictives à travers le monde et l'initiative revient à Claude Coulpier, donc cet artiste qui est originaire de Clamecy, qui, durant les vacances d'été de 2002, a invité dans la maison familiale, à Clamecy, deux de ses amis dans le but de retrouver un peu de liberté et d'excitation qu'on connaît quand on est étudiant, qu'on part en voyage d'études. Et au terme de cette première session de travail, en fait, ils ont beaucoup créé, ils ont envoyé leur production à des amis, à des proches, mais aussi à des institutions, et notamment à la Tate Gallery, à Londres. Et tous leurs travaux étaient estampillés avec la formule suivante, réalisés dans le cadre de la résidence minimum exemplaire. Donc, ils baptisent leur maison familiale, ils leur donnent un nom, et ici, la résidence d'artiste de Claude Coulpier s'appelle la RME, ou la résidence minimum exemplaire, parce qu'il faut être un minimum exemplaire. Je cite Claude Coulpier, « À l'origine, il n'y avait pas de site internet. Ça ne s'imposait pas. La résidence minimum exemplaire existait en tant que rumeur ou en envoyant des petites éditions d'images limitées par courrier postal à des gens précis. Ce n'est qu'en janvier 2007, donc 5 ans après sa création, que Claude Coulpier a en fait décidé d'ouvrir une page sur MySpace,
réseau social, pour présenter ouvertement la philosophie de la résidence minimum exemplaire. Je cite, « La résidence minimum exemplaire est une structure indépendante accueillant pour une durée indéterminée artistes, critiques, musiciens, penseurs, chorégraphes, toute personne ayant une activité un minimum exemplaire. La résidence minimum exemplaire est un lieu à la pointe de l'intelligence, de l'exigence, de l'amour et de la liberté. » Fin de citation. Donc ces résidences fonctionnent sans obligation de résultat et les artistes sont libres de rendre compte ou non de leur création sur Internet ou bien dans un espace d'exposition. On a affaire ici à ce que l'on appelle des pratiques discrètes, à une présence silencieuse et peu bavarde, autant sur le réseau que dans le champ de l'art, complètement désarçonné par ses productions qui semblent sans accroche, parfois un peu naïves. Or, ces productions en fait, artistiques sont déjà codées, agencées, immédiatement non naïves, immédiatement secondes et immédiatement diffusées dans le même temps qu'elles ont été réalisées. Donc ce sont des réalisations qui apparaissent comme des sous-produits et pas simplement comme du folklore. Les pratiques de ces artistes, en fait, s'inscrivent dans notre disposition commune au monde, à savoir qu'à présent, on ne peut pas imaginer notre vécu ou l'acte de création sans appareil d'enregistrement. Alors comment le réseau et les appareils d'enregistrement modifient notre disposition au monde ? Eh bien, la web intimité, ça n'est pas exclusivement le porno, l'exhibitionnisme et le voyeurisme. C'est une relation, un partage du sensible, pour reprendre l'expression de Jacques Rancière. La web intimité, c'est pour moi un monde plus touchant, plus humain, plus généreux que le monde perçu par le prisme du réseau social. Alors, j'ai pas trouvé de conclusion, et je crois que la conclusion, c'était en fait la chanson qui a inauguré cette rencontre avec ce pauvre Diogène qui finit, qui est avec sa lanterne et son portable et qui cherche de l'humain. Mais c'est bel et bien le cas, c'est-à-dire qu'il y a un investissement et un usage humain de ce réseau et que la tendance, visiblement, est plutôt à le déshumaniser et à nous pousser à être de simples agents économiques. Voilà, bon, donc j'en ai fini avec la web intimité. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, c'est bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.